Merci, Monsieur le Président, et merci de m'avoir invité à ce colloque. Je suis en effet heureux de présenter les perspectives belges sur la sécurité collective, c'est-à-dire qu'il y a lieu de le définir, et l'environnement, c'est l'écosystème de notre monde. Alors, cette conférence vient à propos, et nous l'avons entendu par l'introduction faite sur le document Solana, document commun entre le premier et le deuxième pilier. Néanmoins, une certaine confusion conceptuelle et des doutes, des peurs risquent de nous distraire devant la nouvelle nature des risques et des menaces qui touchent notre monde. Et cela pourrait mener soit à un super-activisme ou à du fatalisme. Alors la question qu'il faut se poser, c'est comment faire? Et si ça dérape, que faire? Alors, première question, quelles sont les menaces et les risques auxquels est exposé notre monde? Et d'abord, une brève remarque introductive. Pour nous, les militaires, une menace, c'est une contrainte qui peut appeler une réponse militaire. Et pour ces menaces, les militaires planifient des capacités. Par contre, un risque, c'est une contrainte sociétale touchant la sécurité de vie, agirait a priori par d'autres instruments et par la politique, et où les militaires éventuellement peuvent être appelés à venir en rescousse, en amont ou en complément. Mais certains risques sont aussi partiellement ou occasionnellement des menaces. Et je voudrais vous proposer, sans m'y attarder trop, un modèle stratégique belge que nous avons développé pour essayer de comprendre les problèmes de sécurité globaux auxquels notre monde global et interconnecté est en fait soumis. Et pour faire simple, c'est une grande bouteille, c'est un flacon qui est déposé sur un bec type Bunsen et qui est bouché par le dessus par un bouchon relativement lourd. Au niveau des menaces, nous avons mis dans le flacon le terrorisme, les États faillis ou faillissants, les armes de destruction massive et la prolifération. Au niveau des risques, nous y avons mis les violations des droits de l'homme, l'extrémisme, le crime organisé, les trafics illégaux, les inégalités, les problèmes écologiques, et j'y reviendrai, la piraterie, les migrations, les pandémies, le sida, etc. Mais au niveau des risques, qui sont aussi des menaces, il y a lieu de mentionner la sécurité énergétique, qui sera le bouchon, et le réchauffement climatique, qui est le feu. Et pour maintenir la bouteille réchauffée et bouchée en équilibre, il faut donc éviter que les risques mis dans la bouteille ne s'échauffent ou ne s'emballent. Donc il faut traiter par des politiques appropriées, régionales ou multinationales, tous ces risques qui y sont. On peut le faire soit en les inhibant, on appelle cela la containment policy, soit en les soulageant, et là c'est plutôt une politique de coopération. Pour le bouchon, il y a lieu de mener une politique énergétique appropriée. Je ne me divergerai pas trop sur ce sujet, car c'est un sujet complexe et vous en avez parlé. Mais ce qu'il faut quand même se dire, c'est que pour que le bouchon tienne, il faut qu'il y ait un accès à l'énergie en quantité, avec un usage correct et efficient, et tenant compte de la pérennité de celle-ci, avec à terme un effet sur l'emballement climatique qui est aujourd'hui avéré. Et pour freiner, pour ne pas dire arrêter le réchauffement climatique, eh bien là, il y a lieu, bien sûr, de faire bon usage de l'énergie, nous l'avons déjà dit, mais il faut aussi éviter tout ce qui irrite et excite le réchauffement, c'est-à-dire tous les risques qu'ils sont dans la bouteille. Voilà, ceci n'est pas très, je dirais, n'est pas très spécial, mais ce qui est nouveau et remarquable en faisant appel à ce modèle, c'est de constater que peu, pour ne pas dire aucune, des menaces ou des risques ne peuvent encore être traités nationalement. Et pour citer des exemples, les pluies acides, le réchauffement à nouveau, le terrorisme, le crime organisé, tous ces problèmes demandent une approche internationale et globale pour être prise en compte efficacement et avec efficience. Il ne suffit plus aujourd'hui de balayer devant sa porte. Notre environnement de sécurité semble donc en évolution permanente. Et pour faciliter une sortie de crise, induite par les deux thèmes que j'ai cités, le réchauffement climatique et la sécurité énergétique, eh bien, la recherche, l'inventivité, la technologie, le changement comportemental, une approche internationale structurée et structurante seront indispensables. Et notre sécurité globale est à ce prix. Finalement, pour bien regarder la bouteille, il y a encore les conséquences sociologiques de la globalisation dont il faut tenir compte. Et ces conséquences poussent et pressent la bouteille, la compressent, menacent même de la fissurer, de la faire éclater, libérant à nouveau les risques ou les menaces qu'elle contient. Et pour ne nommer que quelques conséquences sociologiques, pensons à la démographie du monde, la partie galopante, la partie stagnante ou la partie régressive, suivant les régions du monde, les courants migratoires et les courants sociétaux déséquilibrés que cela induit. Il y a des F, c'est des F notes, le savons, entre régions, mais même au sein d'une même région ou d'un même pays. La pression, finalement, qu'exercent ces trois éléments décrits ci-dessus sur la bouteille implique donc une plus grande interactivité des menaces et des risques. Et ce modèle nous enseigne encore quelque chose de plus, c'est la complexité de celui-ci, beaucoup de facteurs, beaucoup d'acteurs, beaucoup de victimes potentielles et le changement d'importance relatif permanent de ces menaces et de ces risques. Alors j'en viens à une deuxième question qui est celui d'aujourd'hui. Quels sont les thèmes spécifiquement environnementaux? Et alors là, ils ont été déjà dits, hein, ils touchent nos écosystèmes et ils s'appellent fonte des glaces, désertification, phénomènes océaniques, modification de l'atmosphère, biodiversité. Je ne vais pas les citer toutes, vous les connaissez comme moi. La plupart de ces risques sont aussi, d'une certaine façon, d'origine naturelle, mais sont aujourd'hui aggravés par l'homme, nous le savons, par son comportement, causant en particulier, à nouveau, ce fameux réchauffement climatique. Ce que nous allons essayer de faire, c'est de démystifier un peu tout cela. D'abord, et dans l'absolu, il n'y a rien de neuf concernant des conflits sur base de facteurs environnementaux. Ils ont toujours existé. Il y a suffisamment d'exemples de conflits violents ou de guerres pour des ressources naturelles. Aujourd'hui, la guerre du pétrole ou la guerre du diamant. Mais on peut vouloir être plus spécifique. Qu'en est-il des ressources renouvelables? La guerre pour l'eau, par exemple. Par le fait de la déforestation, la désertification, le manque d'eau potable, les peuples se battent ou se battront pour ces ressources renouvelables, telles l'eau et des sols plus fertiles. Alors, on peut se dire, quel est l'argument de cause? D'après certains, il y a une relation univoque entre les manques environnementaux et les conflits. D'autres disent par contre que le conflit est dû aux migrations engendrées par ces manques environnementaux. Et d'autres enfin voient un chemin causal encore plus complexe. Pour faire simple, l'environnement peut être la raison d'un conflit, le casus belli, ou il peut en être l'amorce, le détonateur, ou même le générateur et le canalisateur. En étudiant la plupart des conflits, apparemment d'origine environnementale, aux nourritures, la corrélation trouvée est généralement faible. Le casus belli est souvent ce que l'on dit en anglais « The reason is the increasing availability of common bads and the discriminated access to scarce common goods ». Autrement dit, la dégradation environnementale sert d'excuse. Ces conflits sont aussi parfois et plus souvent de basse intensité, intra-étatique et se déclare dans des régions écologiquement sensibles du monde dit en développement. Donc, au lieu d'être une cause de conflit, le manque environnemental peut amorcer d'autres événements qui engendrent la violence. Il s'agit souvent de migration, d'approvisionnement, de doléances, de vol ou d'élimination de cheptels. Dès lors, ce qui est perçu comme cause n'est en fait qu'un canalisateur de mécontentement qui induit brusquement la montée de violence. Et ce lien n'est pas toujours automatique, mais plutôt complexe. C'est pourquoi il faut privilégier le monitoring de ces situations complexes pour prévenir les crises. Alors, troisième question que je vais essayer d'aborder un peu plus rapidement, c'est les implications pour la défense, pour la sécurité. Alors, ce thème, plus que nul autre, pousse la coopération et la collaboration internationale, puisque plus personne ne peut se soustraire aux effets néfastes du réchauffement climatique. La distinction classique entre ce qui relève de la défense et de la sécurité externe et ce qui relève de la sécurité interne s'amenuise et devient plus floue. Il s'agit de moins en moins de sécurité de l'État ou des États, mais de la sécurité humaine. Ça a été dit par mon collègue à ma gauche, et l'on parle de la responsibility to protect. la façon dont la communauté internationale aborde ces problèmes de sécurité, comme la criminalité internationale, les catastrophes, etc., démontre qu'il y a une approche plus large et globale de ces problèmes. Il reste encore qu'il y a beaucoup de disparités dans le monde. Et donc, on peut se poser la question, la guerre est-elle une fatalité ? Alors, la guerre est aujourd'hui entre constance et transformation. Et notre débat stratégique fourmille de contributions en tout genre, et la question qui se pose est, la nature de la guerre change-t-elle ? Sans risquer de se tromper, on peut affirmer que dans le longtemps, la grammaire, la syntaxe de la guerre se perpétue. La guerre, c'est malheureusement le reflet de nos sociétés. Or, les sociétés changent, ce qui incite les acteurs des conflits à s'adapter à de nouveaux enjeux, de nouvelles techniques, de nouvelles armes et de nouveaux belligérants. La nature de la guerre ne change pas. L'objectif ultime reste toujours le même, c'est la victoire, c'est battre son adversaire. Alors, la guerre continue à s'adapter à l'émergence de nouveaux acteurs et de nouveaux enjeux. Elle sera de plus en plus asymétrique, de basse intensité, même si la compétition stratégique entre grandes puissances n'est pas tout à fait à exclure, amenant des relations existantes à s'imposer en rivalité. La guerre de l'avenir n'est déjà plus et ne sera donc plus exclusivement militaire. Elle sera une question de leadership que de domination, et elle reposera sur la capacité d'influence et de persuasion. Certains auteurs appellent cela une nouvelle forme de soft power. Alors, la sécurité et la stratégie sont intimement liées. Et dans le contexte international actuel, avec tous ces risques nouveaux et le retour d'anciennes menaces, eh bien, il est plus que temps d'éviter qu'il y ait un découplage entre sécurité et défense. La défense étant de plus en plus perçue comme la projection à l'extérieur et la sécurité comme étant le volet extérieur et intérieur. La stratégie réservée à l'extérieur et la sécurité confinée au territoire national deviendraient, si cela se passait, deux choses distinctes. Et la guerre et cette notion serait alors remise en question au bénéfice d'acteurs non étatiques. J'en viens maintenant brièvement à la planification militaire. Les caractéristiques des opérations militaires et les conditions d'engagement de la force ont changé et changent sans cesse. Aujourd'hui, on parle d'interventions conjointes, interarmées, combinées, multinationales, avec une forte coordination interdépartementale, nationale, internationale. Celle-ci doit donc se concevoir et se faire dès avant la phase de la planification d'une intervention. Et c'est uniquement celle-ci qui peut avoir un effet de plus-value dans le succès de la résolution de la crise. Je voudrais peut-être arriver à ma conclusion, le temps étant quand même compté. Je pense qu'il faudra tenir compte des nouveaux enjeux de sécurité. Ce sont l'énergie, l'influence des modifications climatiques, éventuellement d'autres facteurs comme la cybercriminalité et bien évidemment certaines formes de terrorisme. Et dans ce contexte de multiplication de crises, face à tous ces défis partagés, il faut aujourd'hui agir ensemble pour une sécurité commune. Il faut savoir se fixer des objectifs et des orientations. C'est tout le but d'une stratégie. Mais il faut aussi avoir des moyens pour agir et produire des effets. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les instruments capacitaires. C'est ce que j'ai sauté dans la partie de planification. Aujourd'hui, nous pensons en capacité, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement du matériel des personnes, mais aussi des doctrines, des entraînements, de l'instruction, du leadership, des infrastructures et de la finance. Donc, en s'attaquant aux causes pour produire des effets, on peut éviter les dérapages belliqueux. Et tout l'art est dans la détection et la prévention des crises ou dans l'intervention ciblée et cohérente. Il y a un changement en cours et celui-ci est peut-être marqué et déjà partagé par l'opinion publique. Et je fais référence ici au récent rapport de M. Ducarme à l'Assemblée de l'UEO la semaine dernière. Je cite « Au début du XXe siècle, en cas de conflit, les victimes étaient pour 90% des militaires et 10% de civils. Au début du XXIe siècle, ce sont 80% de civils et 10% de militaires. » Je me demande où sont passés les autres 10%, mais je suppose que ce sont les acteurs non étatiques. Cela montre bien que l'enjeu stratégique, l'utilisation des outils, les décisions sont à prendre en considération de manière totalement différente. Et c'est en termes de sécurité et de défense qu'il faut penser. Connaissant les menaces et les risques, en les étudiant et en les suivant dans leurs évolutions, en tirant les conséquences de ces changements, sachant qu'elles sont de plus en plus diffuses et qu'elles incluent des domaines que nous n'incluions pas jusqu'à présent dans les politiques de défense et de sécurité, eh bien, tout cela devra être intégré dans une politique et qui, pour moi, est la politique de sécurité et de défense européenne. Il faudra mieux dépenser, il faudra se mettre d'accord sur des projets capacitaires structurants basés sur le développement en commun de moyens, l'utilisation de moyens existants, la mise en commun de fonctions civiles et militaires, une capacité européenne d'évacuation de ressortissants, une capacité spatiale, et je pourrais continuer, j'arrête ici. Mais de toute façon, le débat sur la sécurité et la défense est ouvert. Et après cette actualisation de la stratégie, il faudra une impulsion politique, des projets relatifs au renforcement progressif de nos capacités. Il faut ouvrir ce débat et ce colloque, comme d'autres, vient à point. Il ne faut pas imposer, mais définir ensemble au niveau européen, à partir d'une ambition commune, un effort partagé pour faire de l'Europe un acteur global sur la scène internationale. Je vous remercie, Monsieur le Président.